Brothers and sisters, we welcome you.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence. En cette période si particulière, nous sommes reconnaissants d'être assemblés avec vous et de réfléchir à la naissance, à la vie et à la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le président Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Nous adressons nos vœux de Noël les plus chaleureux à chacun de vous, où que vous soyez. La musique de cette veillée de Noël sera interprétée par le chœur du Tabernacle et par l'orchestre de Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Car un enfant nous est né ». Ensuite, Brian Ashton, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière d'ouverture.
Oh,
Our beloved Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour la vie, l'exemple, la mission et le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Père, nous avons le grand désir d'être comme lui et de suivre son exemple. Et nous prions pour qu'au cours de cette soirée, en écoutant les paroles qui seront prononcées, nous ressentions ton esprit et sachions dans notre cœur comment mieux faire connaître l'Évangile, secourir ceux qui doivent être secourus et aider et être gentils envers notre entourage et montrer l'exemple pour t'amener des âmes. Cher Père, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir un prophète actuel. Nous te demandons de le bénir et de le fortifier, lui et ses conseillers, les 12 et tous ceux qui travaillent avec eux. Et nous te demandons que toutes les personnes qui parleront ce soir aient ton esprit, que nos cœurs soient ouverts et que nous soyons enseignés d'en haut. Nous t'aimons et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Whitney Clayton, de la présidence des 70. Après son discours, le chœur chantera « Noël, Noël ». Nous entendrons ensuite Linda Burton, présidente générale de la Société de secours. Le chœur chantera ensuite « In the bleak midwinter ».
Dear brothers and sisters,
chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir parce que nous aimons Noël et la période de Noël. Qu'y a-t-il de mieux que la belle musique et les cantiques de Noël, les rassemblements de la famille et des amis, les visages souriants et l'exubérance joyeuse des enfants? Cette période de l'année possède la capacité divine de nous rassembler en tant que famille, amis et communauté. Nous attendons impatiemment d'échanger des cadeaux et de déguster un repas de fête. Nous sommes nombreux à penser à plusieurs choses que nous devons absolument faire pour que notre Noël soit réussi. Dans un cantique de Noël, écrit par l'auteur anglais Charles Dickens, le neveu de Scrooge capte la magie de cette période sacrée de l'année en disant « J'ai toujours regardé l'époque de Noël quand elle arrive comme une belle époque, une époque de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir, la seule dans le long calendrier de l'année où je sache que tous, hommes et femmes, semblent par un consentement unanime ouvrir librement leur cœur et considérer les gens comme s'ils étaient des compagnons de voyage sur le chemin du tombeau et non pas une autre race de créatures marchant vers d'autres destinations. C'est pourquoi, quoiqu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or ou d'argent, je crois que Noël m'a fait du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi je le dis, que Dieu le bénisse. En tant que parent et maintenant grand-parent, je me suis rappelé la magie de Noël en regardant mes enfants et maintenant leurs enfants fêter la naissance du Sauveur et être heureux d'être ensemble quand notre famille se rassemble. Je suis sûr que vous avez vu, comme moi, la joie pure et l'innocence enfantine avec laquelle les enfants attendent impatiemment et savourent cette époque de l'année. Voir leur joie rappelle à chacun de nous les heureux Noël passés. C'est encore Dickens qui a fait cette remarque. C'est agréable d'être parfois des enfants, et jamais autant qu'à Noël, quand son grand fondateur était lui-même un enfant. J'ai été élevé près de Los Angeles, où notre maison était entourée d'orangeries, avec des arbres lourdement chargés de fruits à cette époque de l'année. Un soir, à chaque Noël, mes parents invitaient la famille, les amis et les voisins à chanter des cantiques de Noël et à prendre une collation. C'était une merveilleuse tradition pour nous tous, et nous chantions pendant des heures, me semblait-il. Nous, les enfants, nous chantions aussi longtemps que nous avions l'impression d'y être obligés, puis nous nous éclipsions dans l'orangerie pour jouer. Ma femme, Cathy et moi avons élevé nos enfants en Californie du Sud également, assez près du littoral. Noël y est caractérisé par les palmiers qui se balancent dans la brise. Chaque année, nos enfants attendaient impatiemment d'aller au port pour regarder la parade nautique annuelle. Des centaines de beaux bateaux scintillant de lumière de toutes les couleurs faisaient le tour du port pendant que nous regardions émerveillés. Maintenant que nous vivons à Salt Lake City, Cathy et moi avons instauré la tradition d'emmener nos enfants et petits-enfants à une production théâtrale locale de la pièce intitulée « Un cantique de Noël ». Chaque année, quand nous regardons Ebenezer Scrooge se transformer miraculeusement d'un solitaire impitoyable en un voisin heureux, empli de la joie de Noël, cela nous incite à renoncer au Scrooge en chacun de nous. Cela nous inspire de faire un peu mieux, poursuivre l'exemple de charité du Sauveur à l'égard de tous. L'esprit de transformation de l'époque de Noël plonge ses racines dans le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ, afin de nous rendre meilleurs. Le récit si cher de la naissance du Fils de Dieu, il y a plus de 2000 ans à Bethléem, est consigné dans le livre de Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » L'ange a dû remarquer le mouvement de frayeur des bergers quand il est apparu, en leur disant « Ne craignez point ». La gloire stupéfiante de Dieu qui irradiait du messager céleste inattendu les avait vraiment fait frémir de peur. Mais la nouvelle que l'ange voulait leur apporter n'avait rien d'effrayant. C'était tout à fait le contraire. Il était venu leur annoncer un miracle, leur apporter la bonne nouvelle la plus extraordinaire, leur dire que la rédemption de l'humanité avait formellement commencé. Aucun messager, avant ou après, n'a apporté de nouvelles aussi réjouissantes. Le Fils unique du Père dans la chair commençait son séjour mortel. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'était vraiment une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie. Nous avons tous les moments dans la vie où la grande joie promise par l'ange peut nous paraître insaisissable et lointaine. Nous sommes tous assujettis aux faiblesses et aux difficultés de la vie. La maladie, l'échec, la déception et à la fin, la mort. Bien des gens ont reçu la bénédiction de vivre en sécurité. Ce n'est pas le cas pour d'autres aujourd'hui. Beaucoup de gens ont de grandes difficultés à faire face aux exigences de la vie et à supporter le fardeau physique et émotionnel que cela peut induire. Et pourtant, malgré les épreuves, le message que le Seigneur adresse à chacun de nous est le même aujourd'hui que celui qui a été adressé au berger qui veillait il y a 2000 ans. Ne crains point. Peut-être l'injonction de l'ange de ne pas craindre a-t-elle davantage de pertinence pour nous aujourd'hui qu'elle n'en avait la première nuit de Noël dans le but de calmer la crainte des bergers, craignant pour leur sécurité. A-t-il voulu que nous comprenions également que grâce au Sauveur, la crainte ne triomphera jamais ? Pour souligner qu'avoir peur tout le temps n'est jamais justifié, pour nous rappeler qu'aucun problème terrestre ne dure, qu'aucun de nous n'est hors de portée de la rédemption, le plus beau cadeau de Noël sera toujours celui que le Sauveur lui-même nous a donné, sa paix parfaite. « Je vous laisse la paix », a-t-il dit, « je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Même dans un monde où la paix semble éloignée, le don de paix du Sauveur peut vivre dans notre cœur, quelles que soient les circonstances. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, si nous acceptons cette invitation du Sauveur de le suivre, la peur durable est bannie à jamais. Notre avenir a été assuré. C'est la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le prophète Ésaïe nous a rappelé à juste titre, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Grâce au Sauveur, né il y a 2000 ans à Bethléem, l'espoir existe, et bien plus encore. Il y a la rédemption, la libération, la victoire et le triomphe. Le mal échouera, le bien triomphera. Il n'est pas étonnant qu'un cœur d'ange soit soudainement apparu, tel un point d'exclamation céleste, pour accompagner l'annonce de la naissance du Sauveur en chantant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Aucun message ne pourrait être aussi rassurant. Aucun message n'a jamais contenu davantage de paix envers les hommes. Le Sauveur a enseigné « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi ». Que cette période de l'année vous apporte la paix et la joie à vous et à vos proches, car aujourd'hui nous est né un Sauveur dans la cité de David, le Christ, le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Like many of you, my cute husband Craig
Comme beaucoup d'entre vous, Craig, mon adorable mari et moi aimons profondément les chants sacrés de Noël. Si je devais faire la liste de nos chants préférés, dans les tout premiers, il y aurait sûrement « Venez tous fidèles ». Ces paroles joyeuses et triomphantes nous invitent à courir, à contempler et à adorer notre Sauveur, Jésus-Christ, le Roi des anges. Je suis certaine que lorsque nous étions des esprits prémortels et que nous avons eu connaissance du plan du salut, nous l'avons non seulement contemplé et adoré, mais nous avons aussi crié de joie quand il s'est offert volontairement et humblement pour être le Sauveur du monde. Les paroles les plus profondes jamais exprimées ont été prononcées quand il a dit humblement « Me voici, envoie-moi ». L'apôtre Pierre nous a exhortés à être toujours prêts à donner raison de l'espérance qui est en nous. Dans les deux souvenirs personnels de Noël que je vais évoquer, j'espère que vous pourrez voir pourquoi j'ai une si grande espérance dans le Sauveur, en Dieu, notre Père éternel, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et dans le plan du bonheur parfait et glorieux du Père. Souvenir de Noël numéro 1. Quand j'avais 14 ans, notre famille vivait en Nouvelle-Zélande. Mon père avait une trentaine d'années lorsqu'il y a été appelé comme président de mission. La saison de Noël est arrivée et mes 5 frères et sœurs et moi étions encore en train de nous adapter à notre nouvelle maison loin de chez nous. Pour moi, qui étais une adolescente immature, c'était difficile d'être loin de ma maison, de mes amis et de ma famille. Je broyais du noir parce que les scènes, les sons et les célébrations de Noël si familiers comme la musique, les lumières, l'arbre de Noël, la neige et notamment ma famille me manquaient. Mes cousins, mes tantes et mes oncles me manquaient, eux qui allaient bientôt se réunir dans la maison de grand-père Kerr à Salt Lake City pour la fête annuelle de Noël et de la famille Carr. C'était la veille de Noël 1966. J'avais à contre-cœur rejoint ma famille et les missionnaires pour une soirée familiale au foyer de la mission, convaincue que cette réunion serait, au mieux, un piètre substitut de la fête de famille Carr à laquelle je désirais tant être. Je ne me rappelle pas exactement à quel moment le téléphone a sonné, mais cet appel téléphonique a instantanément changé mon cœur d'adolescente, me remplissant d'une compassion profonde à l'égard de mon cher père et du remords d'avoir été autant tourné vers moi-même. L'appel venait de mon oncle Joe, qui nous annonçait que notre bien-aimé grand-père Kerr, si dévoué, travailleur et fidèle à ses alliances, venait d'avoir un grave accident vasculaire cérébral et était dans le coma à l'hôpital. Dans ma tête se bousculaient les souvenirs de ce patriarche qui avait toujours un appareil photo à la main, qui était musicien, amusant et que nous aimions si tendrement. Mon père était visiblement bouleversé après cet appel, mais il s'est ressaisi, a redressé les épaules, a rendu témoignage fervent du plan du père et dit la foi qu'il avait dans le rôle vital du Sauveur dans ce plan. Son témoignage a touché mon cœur meurtri. Malheureusement, grand-père ne s'est pas rétabli. Il est décédé dès le lendemain. C'était le jour de Noël en Nouvelle-Zélande, mais à Salt Lake City, c'était la veille de Noël, jour préféré de l'année de grand-père. C'était la première fois que je perdais quelqu'un qui m'était si proche et si cher. J'ai pleuré sa perte, mais j'ai été bénie et réconfortée grâce à ma connaissance du glorieux plan du bonheur. J'avais l'assurance de revoir grand-père si je vivais comme il avait vécu. Je ne pense pas qu'à ce moment de ma vie, je comprenais pleinement le rôle essentiel que le Sauveur et son sacrifice expiatoire ont joué pour qu'un jour je puisse retrouver mes êtres chers. Mais j'en savais assez pour me réjouir du plan. J'en savais assez pour adorer celui dont nous fêtions la naissance. Depuis ce Noël si lointain, j'ai acquis une plus grande connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Harold Billy a enseigné, le Fils de Dieu avait le pouvoir de créer des mondes et de les diriger. Il est venu ici, en tant que Fils unique, pour accomplir une mission qui consistait à être l'agneau immolé dès la fondation du monde et apporter le salut à toute l'humanité. En donnant sa vie, il a ouvert la porte à la résurrection et a enseigné comment nous pouvions obtenir la vie éternelle. Voilà qui Jésus était dans toute sa grandeur. Souvenir de Noël numéro 2. Noël 1984 est un autre souvenir poignant qui me fait éprouver encore plus de gratitude pour le glorieux plan du salut. J'avais 32 ans, un mari bien-aimé et fidèle, et j'étais mère de 4 petits-enfants âgés de 3 à 10 ans que j'aimais profondément. 6 semaines avant Noël, notre médecin nous a annoncé une nouvelle qui a ébranlé notre petit monde. quand il a prononcé le diagnostic d'un cancer et que Craig et moi nous sommes regardés, incrédules, refoulant nos larmes en nous demandant ce que l'avenir nous réservait. Cependant, tout de suite après, nous avons ressenti une douce paix qui surpasse toute intelligence, grâce à notre foi en Jésus-Christ et au plan du Père. À cette époque, Craig était évêque de notre paroisse, mais nous avons choisi de n'annoncer la nouvelle qu'à notre famille, afin que tout soit le plus normal possible pour nos enfants. Au cours des 6 semaines qui ont précédé Noël, j'ai roulé presque tous les jours dans la neige et la glace pour aller au service des traitements ambulatoires de l'hôpital, pendant que nos mères et nos sœurs dévouées aidaient à tour de rôle à la maison. Cela a été une période éprouvante, mais quand je repense à ce Noël, les mots me manquent pour décrire la gratitude immense que j'ai ressentie pour le sacrifice expiatoire de notre Sauveur, Jésus-Christ, et pour le plan miséricordieux du grand Créateur. Comprenant sans doute mieux que jamais auparavant à quel point la vie était fragile, j'ai senti le plan du bonheur de notre Père Céleste devenir plus personnel que jamais. Noël a été différent cette année-là. J'aime tout ce qui se rapporte à Noël, mais les seules choses qui semblent compter pour moi étaient mon mariage éternel, ma famille et ma foi en mon Père Céleste, en Jésus-Christ et dans le plan et le témoignage que j'en avais. Un jour, alors que je me reposais chez moi, m'interrogeant sur l'avenir de nos 4 petits-enfants, je feuilletais un exemplaire du magazine L'Ami, lorsqu'un morceau de musique a attiré mon attention. Je me suis assise au piano et j'ai pleuré en chantant et en sentant le message du chant pénétrer dans mon cœur sensible. J'ai su que je devais non seulement l'enseigner aux 100 enfants de la primaire de notre paroisse, où j'étais directrice de la musique, mais surtout aux 4 précieux enfants qui vivaient sous notre toit. Voici les paroles. Comment le Père a-t-il donné son amour, sa tendresse? Il envoya son premier-né, l'enfant de la promesse. Comment le Père a-t-il montré la voie d'obéissance? Il envoya son fils aimé, donner la connaissance. Comment nous a-t-il enseigné la mort, le sacrifice? Il envoya mourir pour nous, son bien-aimé, son fils. Que demande le Seigneur? Qu'ont dit les Écritures? Ayez l'espoir, la foi au Christ. Montrez la route sûre. Qu'a dit le Père? Suivez le Fils. Ce chant inspiré m'a permis d'entrevoir comment je pouvais montrer ma reconnaissance envers mon Père Céleste pour son Fils et pour son plan. J'ai ressenti que même si je n'avais pas la chance de voir nos enfants devenir adultes, s'ils pouvaient apprendre à connaître, comprendre et vivre la doctrine simple et profonde exprimée dans ce chant sacré, alors ils pourraient devenir de véritables disciples de Jésus-Christ et j'aurais fait ma part en tant que mère. Cette année-là, notre foyer a été enveloppé d'un esprit spécial qui nous apportait une paix et un amour mutuel que je n'oublierai jamais. J'avais l'impression que c'était comme si, à ce Noël-là, on avait donné à nos enfants un sens exceptionnel du sacré. Ils n'avaient jamais joué auparavant et jamais plus depuis la scène de la nativité avec autant de révérence, avec un émerveillement et un amour qui dépassaient leurs jeunes années. Alors que nous traversions des circonstances éprouvantes, nous avions l'impression d'avoir une plus grande sensibilité spirituelle lorsque nous méditions avec gratitude sur le don qui nous est fait d'un Sauveur, Jésus-Christ, et du glorieux plan du salut de notre Père Céleste. Je me suis souvent demandé comment les gens peuvent vivre sans l'espérance qu'apporte la compréhension du plan du salut et du rôle central que l'expiation du Sauveur y tient. J'ajoute avec gratitude mon témoignage à celui de notre prophète bien-aimé Thomas S. Monson, qui a dit avec force « Je témoigne de Jésus-Christ qui a délivré chacun de nous d'une mort éternelle. Il enseigne la vérité, mais il est plus qu'un enseignant. Il est le modèle de la vie parfaite, mais il est plus qu'un modèle. Il est le médecin par excellence, mais il est plus qu'un médecin. Lui qui a secouru le bataillon perdu de l'humanité est littéralement le sauveur du monde, le Fils de Dieu, le Prince de la paix, le Très Saint d'Israël, le Seigneur ressuscité qui a déclaré « Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui a été immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. » Quand nous réfléchissons à son sacrifice incompréhensible pour nous, les paroles suivantes sont parmi les plus tristes jamais prononcées par notre Sauveur. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Quand les temps sont difficiles, nous pouvons faire le choix de nous détourner de lui et de nous débattre seuls dans nos afflictions, ou nous pouvons choisir de nous tourner vers lui et vers le plan du Père, et découvrir alors que nous souffrirons aucune sorte d'affliction sans qu'elle ne fût engloutie dans la joie du Christ. Je prie pour que chacun de nous accepte l'invitation du chant sacré de Noël à aller adorer le Sauveur et notre Père Céleste pour son plan glorieux et parfait. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
We will now be pleased to hear.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre David Bednar du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur chantera Carol of the Bells. Dieter Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette veillée.
The most familiar and beloved account of the Savior's birth.
Le récit le plus connu et que nous aimons tant de la naissance du Sauveur se trouve dans le deuxième chapitre de Luc dans le Nouveau Testament. Je suis rempli de gratitude chaque fois que je lis le récit du voyage de Joseph et Marie à Bethléem, la mangeoire, l'humble naissance du Seigneur Jésus-Christ, les bergers, les anges qui annoncent une bonne nouvelle et une grande joie pour tout le peuple. Le rétablissement de l'Évangile dans les derniers jours nous offre un autre récit important de la naissance du Sauveur dans le livre de Mormon. Mon message met en lumière cette autre description du premier Noël. Je vous invite, en réfléchissant ensemble à cet épisode, à ne pas simplement écouter les paroles, mais à vous visualiser en train de participer à ces événements. Je prie pour que le Saint-Esprit vous aide à appliquer ces Écritures à vous-même et à votre famille et remplisse votre cœur du véritable esprit de Noël. Notre récit commence au pays de Zarahemla, quelques années avant la naissance du Sauveur. Samuel le Lamanite vient parmi le peuple prêcher le repentir et prophétiser la venue du Christ. Maintenant, essayez d'imaginer. Vous avez 10 ans et vous faites partie de la foule qui écoute un prophète de Dieu prédire des événements. Samuel déclare, « Voici, je vous donne un signe, car il y aura encore 5 années, et voici, alors, le Fils de Dieu viendra racheter tous ceux qui croiront en son nom. Et voici, je vais vous donner ceci comme signe du moment de sa venue. Car voici, il y aura de grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit qui précédera sa venue, il n'y aura pas de ténèbres, de sorte qu'il semblera à l'homme qu'il fait jour. C'est pourquoi il y aura un jour et une nuit et un jour, comme si c'était un seul jour et comme s'il n'y avait pas de nuit. Et cela vous sera donné comme signe. Et voici, une nouvelle étoile se lèvera. Et ce sera aussi un signe pour vous. Après le temps, avec le temps, les prophéties des prophètes commencèrent à s'accomplir plus complètement, car de plus grands signes et de plus grands miracles commencèrent à se produire parmi le peuple. Imaginez, 5 années ont passé, et vous avez maintenant environ 15 ans. Vous vous souvenez clairement des prophéties de Samuel et réfléchissez à votre situation actuelle. Mais il y en eut qui commencèrent à dire que le temps était passé pour l'accomplissement des paroles qui avaient été dites par Samuel le Lamanite. Et ils commencèrent à se réjouir au sujet de leurs frères, disant, « Voici, le temps est passé, et les paroles de Samuel ne sont pas accomplies. C'est pourquoi votre joie et votre foi concernant cette chose ont été vaines. » Et il arriva qu'ils causèrent un grand tumulte dans tout le pays. Et ceux qui croyaient commencèrent à être très tristes, craignant que, d'une façon ou d'une autre, les choses dont ils avaient été parlés n'arrivassent pas. Mais voici, ils attendaient avec constance ce jour et cette nuit, et ce jour qui serait comme un seul jour, comme s'il n'y avait pas de nuit, afin de savoir que leur foi n'avait pas été vaine. Or, il arriva qu'il y eut un jour fixé par les incrédules où tous ceux qui croyaient en ces traditions seraient mis à mort, à moins que le signe qui avait été donné par Samuel le prophète n'arrivât. Frères et sœurs, pouvons-nous même comprendre ce que cela a dû être d'attendre le signe de sa venue tout en étant confrontés à une possible mise à mort? Serions-nous restés fidèles dans la foi ou aurions-nous vacillé et renoncé? Puis, enfin, le signe de la naissance du Christ annoncé par Samuel fut donné. dans un climat de persécution religieuse, et à environ 15 ans, vous êtes émerveillé un soir, car au coucher du soleil, il n'y a pas de ténèbres. Et le peuple commença à être étonné, parce qu'il n'y avait pas de ténèbres lorsque la nuit vint. Et ils commencèrent à savoir que le Fils de Dieu allait apparaître sous peu. Oui, tout le peuple fut tellement étonné qu'il tomba par terre. Et il arriva qu'il n'y eut pas de ténèbres pendant toute cette nuit-là, mais il faisait aussi clair qu'en plein midi. Et il arriva que le soleil se leva de nouveau le matin, et ils surent que c'était le jour où le Seigneur naîtrait, à cause du signe qui avait été donné. Et c'était arrivé, oui, tout, en tout point, selon les paroles des prophètes. Et il arriva aussi qu'une nouvelle étoile apparut, selon la parole. Le jour de la naissance de Jésus fut un jour de délivrance pour les croyants du Nouveau Monde. La lumière, signe de la naissance du Sauveur, leur a littéralement sauvé la vie. Maintenant, imaginez que plus de 30 ans ont passé et que vous approchez de la cinquantaine. Vous vous souvenez, comme si c'était hier, des enseignements de Samuel et des expériences de votre jeunesse lorsque le signe de la naissance du Seigneur fut donné. Un des signes de la mort du Christ, annoncé par Samuel, était 3 jours de ténèbres intenses. Et il arriva qu'il y eut des ténèbres épaisses sur toute la surface du pays, de sorte que ceux de ses habitants qui n'étaient pas tombés pouvaient toucher la vapeur des ténèbres. Et il ne pouvait y avoir aucune lumière à cause des ténèbres, ni lampe, ni torche, et il était impossible d'allumer du feu, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir de lumière du tout. Et on ne voyait aucune lumière, ni feu, ni lueur, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, tant étaient grands les brouillards de ténèbres qui étaient sur la surface du pays. Et il arriva que pendant 3 jours, on ne vit aucune lumière. Qu'est-ce que cela a pu être de vivre ces 3 jours de ténèbres indescriptibles, puis, peu de temps après, de rejoindre la foule de 2500 personnes au temple du pays d'abondance? Pouvez-vous imaginer la majesté du moment où le Seigneur est descendu du ciel et a déclaré « Voici, je suis Jésus-Christ. Je suis la lumière et la vie du monde. » À cette assemblée devant le temple, 2 des premiers mots que le Sauveur a adressés pour se décrire ont été « la lumière ». Samuel avait prédit un signe de lumière. Le signe de lumière a été donné à la naissance du Sauveur. Pour la foule assemblée, les terribles ténèbres et la peur avaient été dissipées par la véritable lumière, Jésus-Christ. Le récit de Noël dans le livre de Mormon nous aide à apprendre et à comprendre plus pleinement que Jésus-Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. À chaque période de notre vie, dans toutes les situations que nous rencontrons et dans chaque difficulté que nous affrontons, Jésus-Christ est la lumière qui chasse la peur, nous donne de l'assurance et nous guide, et engendre une paix et une joie durables. Beaucoup de nos plus anciennes traditions de Noël ont trait à différents types de lumières. Les lumières sur les arbres, les lumières dans nos foyers, les bougies sur nos tables. Puisse la magnifique lumière de chaque période de fête nous rappeler celui qui est la source de toute lumière. Pourtant, brille dans tes rues sombres la lumière éternelle. Oui, la réponse à nos appels ce soir se trouve en toi. Je témoigne que Jésus est né à Bethléem, a triomphalement rempli sa mission et son ministère terrestre, et qu'il vit aujourd'hui, lui, notre Seigneur ressuscité. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Isn't it a wonderful privilege?
N'est-ce pas un merveilleux privilège que de profiter de cette belle soirée en présence de notre cher prophète, le président Monson? Noël est cette période unique où nous portons un regard nouveau sur les autres, où nous ouvrons un peu plus notre cœur à la beauté qui nous entoure, et où nous tendons la main aux autres avec un peu plus de gentillesse et de compassion. Avec de la chance, nous les adultes pouvons de temps en temps avoir un bref aperçu de ce que signifie être encore une fois un enfant. L'idée que quelqu'un que nous aimons fasse quelque chose de spécial pour nous et notre excitation à l'idée de préparer quelque chose de spécial pour lui réchauffe notre cœur, nous remplit d'amour et de plaisir à l'avance. Ajoutez à cela les lumières scintillantes, les merveilleuses décorations, les crèches magnifiques. Il n'est pas étonnant que Noël soit une période de l'année autant aimée. Ensuite, bien sûr, il y a la musique. Rien ne met autant en évidence la signification profonde et le doux esprit de cette période qu'un chant de Noël. Que les mélodies soient joyeuses, méditatives ou nostalgiques, Noël a quelque chose qui inspire une musique magnifique. Ces merveilleux accords de Noël nous donnent de l'espoir et nous rappellent les raisons pour lesquelles nous nous réjouissons. Aujourd'hui, nous avons eu la chance extraordinaire d'entendre une musique céleste interprétée par l'orchestre de Temple Square et le chœur du Tabernacle Mormon. La musique qu'il interprète est si merveilleuse que je me plais à imaginer les anges célestes qui se penchent de temps à autre pour écouter et même se joindre au chant. Le chœur vient de chanter l'un des plus beaux airs de Noël jamais composés. L'enchanteur sonne les cloches, qui a été interprété aux États-Unis pour la première fois en 1921. À l'origine, ce n'était pas du tout un chant de Noël. C'était un chant traditionnel ukrainien séculaire connu sous le nom de Chedrik, souvent traduit par « le généreux ». Les familles ukrainiennes le chantaient au début de chaque nouvelle année. Les paroles originales racontent l'histoire d'une hirondelle qui entre dans la maison d'une famille et lui annonce qu'une grande et merveilleuse fortune les attend dans l'année à venir. J'aime les bons sentiments que cette histoire suscite. J'aime son message d'espoir et d'optimisme. N'est-ce pas là le message de Noël? Même quand le monde peut sembler très sombre, quand les choses ne vont pas bien, quand notre cœur déborde de déception et d'inquiétude, même quand nous sommes plongés dans la tristesse et le chagrin, nous chantons qu'il y a de la joie pour le monde et pour les hommes de bonne volonté, grâce au Christ qui est venu éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Par conséquent, comme il est pertinent que le chant de Noël préféré que nous venons d'entendre ait été intitulé à l'origine « Le généreux ». Après tout, Noël est un moment de générosité. Mû par cet esprit, nous passons parfois des heures à chercher le cadeau parfait pour nos amis et nos parents. Nous cherchons des façons d'aider davantage et d'être plus joyeux. Nous sommes poussés à passer plus de temps avec nos êtres chers. Nous faisons davantage attention aux gens qui sont dans la détresse et souvent, nous donnons plus généreusement de nous-mêmes pour les aider. Tout cela est de notre part le reflet imparfait, mais sincère de la générosité de notre Sauveur, dont nous cherchons à honorer la naissance. Mais nous savons tous que trop souvent, l'esprit sublime de Noël peut être étouffé, voire se perdre dans le rythme frénétique et la pression des achats, des échéances financières et des emplois du temps surchargés. Je ne cherche pas à inciter à un comportement de rejet, parce que j'ai moi-même certains de mes plus beaux souvenirs de Noël passés à échanger des cadeaux, à me perdre dans l'agitation des foules et à assister à de joyeux spectacles, petits et grands, qui rassemblent les gens à cette époque de l'année. Oui, il y a de nombreuses raisons d'apprécier ces choses, mais il y a bien davantage. Par conséquent, j'invite chacun de nous à trouver cette saison de Noël un moment de quiétude où il pourra réfléchir et exprimer sa profonde reconnaissance envers le généreux. Pensons à la miséricorde empreinte de compassion, d'amour et sans limite de notre Père Céleste. Pendant nos achats de cadeaux, et lorsque nous les donnerons et en recevrons, puissions-nous aussi prendre le temps de méditer paisiblement sur les dons généreux que Dieu a déversés sur nous, ses enfants. Je suppose qu'il est de la nature humaine de considérer que les choses sont dues, même celles qui ont une grande valeur. C'est une des leçons que nous tirons de l'histoire des 10 lépreux à l'époque de Jésus. Affligés par une maladie accablante qui les avait bannis de leurs amis, de leurs parents et de la vie même, ces lépreux affligés ont supplié le Fils de Dieu de les guérir, ce qu'il a fait. Comme vous le savez, après ce glorieux miracle, 9 d'entre eux ont poursuivi leur chemin heureux de leur bonne fortune. Un seul est revenu. Un seul sur 10 a pris le temps d'exprimer sa gratitude. Il n'y en a eu qu'un sur les 10 qui, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ces humbles expressions de pure reconnaissance peuvent sembler aussi rares aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque de cette histoire. Et quand elle se manifeste, elle nous touche et nous incite à compter nos propres bénédictions. J'ai découvert l'exemple d'un homme qui vit en Afrique. À cause d'un handicap, il n'avait jamais pu marcher. Il était obligé de passer la plupart du temps dans la maison de ses parents. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas sortir avec ses amis. Il ne pouvait même pas faire les choses simples que nous considérons comme allant de soi. Puis, il a entendu une annonce extraordinaire. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours envoyait des fauteuils roulants pour un événement qui aurait lieu non loin de chez lui. Il a demandé à l'un de ses amis de l'y accompagner. Et il a vu des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants handicapés prendre place dans des fauteuils roulants flambant neufs. Comme il avait envie de prendre place dans l'un d'entre eux. Comme cela changerait sa vie quelques instants, s'il pouvait se déplacer par ses propres forces. Il a fait la queue jusqu'à ce que son tour vienne. Deux hommes l'ont assis dans un fauteuil roulant et, pour la première fois de sa vie, il a pu se déplacer librement. Au début, il était hésitant. Mais à mesure qu'il s'habituait au fauteuil, il a commencé à se déplacer avec plus de courage. Il tournait, virait, fonçait et soulevait ses roues avant. Il faisait des signes enthousiastes des deux mains, tandis qu'il filait devant son ami. Il volait. L'expression de son visage reflétait la joie. Cependant, après un moment, il est retourné lentement vers les autres et d'un air calme et résigné, s'est préparé pour qu'on l'aide à descendre du fauteuil. Son ami lui a demandé « Que fais-tu ?» L'homme a souri et haussé les épaules. Il a dit « C'est au tour de quelqu'un d'autre maintenant. » Le missionnaire des services humanitaires de l'église s'est agenouillé près de lui et a dit « Ce fauteuil est à vous. » L'homme n'en revenait pas. Il pensait que cet événement n'avait pour seul but que de montrer ce que cela faisait de se déplacer dans un fauteuil roulant. Il a dit, « Il est vraiment à moi ?»« Oui, mais je n'ai pas d'argent. » »« Il est à vous. » »« C'est un cadeau de la part de gens qui vous aiment. » Quand il a fini par comprendre ce qui lui arrivait était vrai, cet homme humble a regardé son ami. Il a regardé le missionnaire. Il a essayé de retenir ses larmes, mais en vain. Il pleurait et riait en même temps à la joie pure qu'il éprouvait. Son ami et le missionnaire ont pleuré avec lui. « Merci », a-t-il dit dans un murmure. Il les a serrés dans ses bras, s'est installé dans son fauteuil et, poussant un grand cri, il s'en est allé avec un grand sourire. « Je peux voler !» criait-il en allant et venant à toute vitesse sur le trottoir. Cet homme comprenait la gratitude. Avons-nous jamais éprouvé une reconnaissance aussi pure et immense ? Je prie pour que pendant cette période de Noël et tout au long de l'année, nous nous souvenions du généreux, notre Dieu, notre Père, notre Berger, et conseiller bien-aimé. Il est celui qui donne. Il est le généreux. Lorsque nous, ses enfants, demandons du pain, il ne nous donne pas une pierre. Au contraire, il nous accorde des dons si sublimes et si précieux qu'il nous est impossible de les concevoir. Il nous donne la paix, la joie, l'abondance, la protection, la subsistance, sa faveur, l'espoir, la confiance, l'amour, le salut, la vie éternelle. En cette période de Noël, nous célébrons le plus grand de tous les dons, celui qui rend tous les autres possibles, la naissance de l'enfant de Bethléem. Grâce à lui, la tombe n'a pas de victoire, et l'aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. Il est la lumière et la vie du monde. Oui, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Oui, et aussi une vie qui est sans fin, de sorte qu'il ne peut plus y avoir de mort. Je loue Dieu avec joie pour sa générosité. Il nous sauve de la solitude, du vide et de l'indignité. Il nous ouvre les yeux et les oreilles. Il transforme les ténèbres en lumière, le chagrin en espérance et la solitude en amour. Il nous libère d'un passé d'esclavage et d'égoïsme et ouvre la voie d'un présent avec un but et d'un avenir plein d'accomplissement. Tel est celui que nous adorons. Tel est notre Dieu. Tel est le généreux. Tel est celui qui aime ses enfants au point d'avoir offert son Fils unique, afin que tous ceux qui le suivent ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Grâce à Jésus-Christ, nous n'avons plus à nous sentir de nouveau comme des étrangers. Nous nous laverons avec les justes quand il reviendra. Et grâce à sa vie parfaite et à son sacrifice éternel, un jour, nous nous tiendrons avec les anges des cieux et recevrons avec eux un don éternel. En cette période de Noël, puissions-nous nous souvenir de notre généreux Père Céleste et remercier du fond du cœur le Dieu Tout-Puissant qui a donné à tous ses enfants des ailes pour voler. C'est là mon humble et sincère prière et la bénédiction que je laisse du fond du cœur à tous en cette période de Noël et pour toujours, au nom de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions sincèrement le chœur du Tabernacle Mormon et l'orchestre de Temple Square de la belle musique de Noël qu'ils nous ont interprétée ce soir. Nous remercions les orateurs et saluons aussi les efforts des personnes qui ont apporté leur aide pour que cette veillée puisse avoir lieu. En cette période magnifique, nous prions pour que chacun de vous puisse ressentir la paix et l'espérance qui se manifeste à travers l'amour rédempteur de notre Sauveur. Pour terminer cette réunion, le chœur chantera le cantique aimé de tous, douce nuit, sainte nuit. L'assemblée se joindra à lui pour chanter le dernier verset selon les indications de Frère Murphy. Ensuite, Cheryl Esplin, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, fera la prière de clôture.
Our Father in heaven,
notre Père céleste, nous te remercions pour ton esprit que nous avons ressenti ici ce soir. Nous sommes reconnaissants pour la musique glorieuse, pour les messages et les témoignages qui nous ont édifiés et qui ont rempli notre cœur d'amour et de gratitude envers toi et ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous sommes tant bénis en cette période de Noël de pouvoir célébrer sa naissance qui a apporté la lumière, la vie, la paix et l'espoir à toute l'humanité. Nous te remercions pour les prophètes et les apôtres de toutes les époques et particulièrement pour ceux d'aujourd'hui qui sont des témoins spéciaux de Jésus-Christ et qui témoignent de lui au monde entier. Nous prions pour que tu nous accordes la bénédiction d'une meilleure compréhension de la vie et de la mission de notre Sauveur et Rédempteur, et qu'avec cette compréhension, nous cherchions à avoir plus de foi en lui, pour devenir davantage comme lui, plus généreux et plus gentil, plus obéissant et plus soumis à ta volonté, plus altruiste et plus soucieux des personnes qui souffrent et qui pleurent. Nous t'aimons, Père, et nous aimons ton Fils. Nous prions en son saint nom, Jésus-Christ. Amen.